Bonjour à tous. Jusqu'où ira l'Iran dans ses menaces de représailles contre Israël? La République islamique promet toujours de répliquer après l'attaque contre son consulat en Syrie attribué à l'État hébreu. Malgré les appels à la retenue de la communauté internationale, en France, le Quai d'Orsay prévient, la situation sécuritaire pourrait très rapidement se dégrader. Un conseil présidentiel de transition pour rétablir l'ordre en Haïti. Un mois après la démission du Premier ministre, la création de cet organe est un premier pas vers le retour à la stabilité dans le pays en proie à la violence de gangs. Comment protéger les auteurs et éditeurs face à l'essor du marché du livre d'occasion? Le président de la République propose d'imposer une taxe aux plateformes de revente. Qu'en pensent les acteurs du secteur? Nous poserons la question à notre invité, Geoffroy Pelletier, directeur de la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Violences sexuelles et comportements sexistes, quand MeToo secoue l'hôpital. Après les accusations visant l'urgentiste Patrick Peloux, des dizaines de soignantes prennent à leur tour la parole pour dénoncer l'omniprésence de ces violences en milieu hospitalier. La communauté internationale sur le qui-vive face aux menaces iraniennes pesant sur Israël. Le président américain s'attend à ce que Téhéran passe bientôt à l'action et riposte après l'attaque de son consulat en Syrie le 1er avril dernier, attaque attribuée à Israël qui a fait une quinzaine de morts dont 7 militaires iraniens. La riposte de la République islamique semble imminente. Joe Biden met en garde Téhéran et prévient: les États-Unis aideront Israël à se défendre et l'Iran échouera. Des renforts supplémentaires américains ont d'ailleurs été envoyés dans la région. Mais Siavosh Ghazi, cela ne semble en rien dissuader le pouvoir iranien à Téhéran.
Les déclarations se multiplient en Iran sur une riposte contre Israël après la destruction du consulat iranien à Damas par une frappe de missile le 1er avril dernier. Les médias iraniens parlent de frappe contre le territoire israélien à l'aide de missiles de précision et de drones d'attaque. Dans un texte envoyé aux médias étrangers basés à Téhéran, le gouvernement iranien a affirmé qu'une attaque iranienne après la destruction du consulat iranien à Damas était une action légitime et nécessaire. Il prévient dans le même temps que si l'État hébreu réagissait, il y aura une réponse encore plus dure de l'Iran, avec la perspective d'un élargissement du conflit à toute la région. Les États-Unis et les pays occidentaux prennent très au sérieux les menaces iraniennes. Washington a décidé de limiter les déplacements de ses diplomates en Israël même. Ces derniers jours, les alliés de Téhéran dans la région, notamment le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen ou encore les milices chiites irakiennes, ont multiplié les attaques contre Israël. Téhéran a mis en garde Washington contre un éventuel soutien à Israël si l'État hébreu prenait la décision de réagir à la riposte iranienne. Les bases américaines en Irak et en Syrie pourraient être visées par Téhéran, mais aussi par ses alliés.
Siavosh Ghazi, correspondant à Téhéran pour France Culture. Et hier soir, le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, a une nouvelle fois lancé des dizaines de roquettes sur des positions israéliennes en réponse aux attaques israéliennes dans le sud Liban. Les appels à la retenue des pays occidentaux se multiplient donc, tout comme les mesures de précaution. Les Pays-Bas annoncent fermer dès demain leur ambassade à Téhéran. En France, le ministère des Affaires étrangères déconseille fortement aux voyageurs de se rendre au Proche-Orient et en Iran. Appel relayé ce matin par le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine, invité de France Info.
Le ministre a décidé de recommander à l'ensemble des Français de s'abstenir de se déplacer au Liban, en Israël, dans les territoires occupés, ainsi qu'en Iran. Et surtout, l'ensemble des familles des diplomates français en poste à Téhéran sont invités à rentrer en France. On est dans une situation où il y a une montée des tensions dans la région, une situation sécuritaire qui risque de se dégrader peut-être très très rapidement. Donc les mesures qui ont été prises sont essentiellement des mesures de précaution. Et nous suivons la situation avec beaucoup d'attention et nous adapterons nos messages bien évidemment en fonction à l'ensemble des Français.
Le Quai d'Orsay qui appelle l'Iran à la retenue, Christophe Lemoine, il y a un dialogue diplomatique direct aujourd'hui entre Paris et Téhéran?
Nous avons une ambassade ouverte à Téhéran et le ministre s'est entretenu le 23 janvier dernier avec son homologue iranien lorsqu'il était en déplacement à New York en marge d'une réunion du Conseil de sécurité. Ça a été l'occasion pour le ministre de passer des messages de grande fermeté à son homologue iranien, justement et précisément sur cette question d'une éventuelle escalade régionale, et en appelant au calme et à la discussion pour éviter justement qu'il y ait cette escalade régionale que nous redoutons.
Appel à la retenue pour Israël appelle aussi Israël qui affirme qu'il y aura une riposte vers la source des tirs, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous appelez aussi Israël à la retenue?
Nous appelons l'ensemble des parties prenantes à la retenue. Évidemment, il y a un contexte extrêmement inflammable en ce moment. Et le message qui est porté par le ministre à l'ensemble de ses homologues, c'est effectivement un message de retenue et dans le but d'éviter une escalade régionale qui pourrait être catastrophique.
Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du Quai d'Orsay avec Jules Dequis sur France Info ce matin. Au moins 5 personnes ont été tuées en Australie par un homme armé d'un couteau. Plusieurs autres personnes ont été blessées. L'attaque est survenue ce matin dans un centre commercial près de Sydney. L'homme a été abattu par la police, un événement rarissime dans le pays. D'après la police australienne, rien n'indique pour l'heure que l'assaillant était animé par une idéologie particulière. Mais aucune piste ne peut être écartée à ce stade. L'enquête s'annonce longue et périlleuse, prévient un porte-parole. Un mois après l'annonce de la démission du très contesté Premier ministre haïtien Ariel Henry, un accord a été trouvé pour former un conseil présidentiel de transition en Haïti. Bonjour Élise Delève.
Bonjour.
Alors cet organe devra rétablir l'ordre et ramener de la stabilité dans le pays en proie à la violence de gangs.
Oui, il a fallu plusieurs semaines de négociations pour parvenir à trouver la bonne formule. Le conseil présidentiel de transition sera constitué de 7 membres représentant les forces politiques du pays ainsi que le secteur privé. Il y aura aussi 2 observateurs de la société civile et religieuse. Ensemble, ils auront jusqu'à février 2026 pour nommer un Premier ministre et un gouvernement inclusif. Le texte publié au Journal officiel espère que les membres du Conseil arriveront rapidement à se mettre d'accord. Pour la communauté des Caraïbes qui a parrainé les discussions, cet accord est un nouveau départ pour Haïti. Les États-Unis notent un pas positif, même si le pays qui n'a plus de président ni de parlement doit faire face à d'immenses défis. Depuis les attaques coordonnées des gangs fin février, 100 000 personnes ont fui la capitale et sa région pour se mettre à l'abri des violences. Port-au-Prince est majoritairement aux mains de bandes criminelles accusées d'enlèvement, de meurtre et de viol. MSF parle de cette ville comme d'un désastre humanitaire. L'ONU tente d'apporter de l'aide, mais la fermeture des principaux ports et aéroports en mars empêche l'acheminement d'aide. Le Programme alimentaire mondial estime notamment que les stocks risquent d'être épuisés d'ici la fin du mois.
Merci Élise Delève de la rédaction internationale. Faut-il mettre en place une contribution sur le marché du livre d'occasion pour protéger les auteurs et éditeurs? C'est en tout cas ce que souhaite le chef de l'État. Emmanuel Macron l'a annoncé hier lors de sa visite au Festival du Livre qui se tient jusqu'à dimanche à Paris. Cette annonce qui fait suite à la publication des résultats d'une étude inédite sur le marché du livre d'occasion en France menée par le ministère de la Culture et la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, la SOFIA, organisme que vous dirigez. Geoffroy Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette large étude montre que le marché du livre d'occasion est en plein essor. Aujourd'hui, un livre acheté sur 5 est un livre d'occasion. Et bien souvent, vendues sur les plateformes numériques. Comment vous expliquez cet essor ?
Alors c'est vrai que l'étude montre plusieurs choses. Le marché du livre d'occasion augmente plus vite, beaucoup plus vite dans certains secteurs de l'édition que le marché du neuf. Et ça c'est vrai à la fois en nombre d'acheteurs de livres d'occasion, en nombre d'exemplaires achetés et même en montant dépensé par ces acheteurs d'occasion. Vous citiez le chiffre d'un livre sur 5 achetés, c'est le chiffre pour l'ensemble du secteur. Mais si on regarde certains domaines de l'édition en particulier, comme les littératures, on est à 1 livre sur 3 acheté qui l'est d'occasion. Et si on regarde même le roman policier, on est maintenant à 1 livre sur 2 acheté qu'il est d'occasion. On a aussi une augmentation du nombre d'acheteurs. Un acheteur de livres sur 4 aujourd'hui achète du livre d'occasion et ce sont essentiellement les mêmes acheteurs que ceux qui achètent du livre neuf. Alors pourquoi ? Plusieurs raisons. On a assisté à 2 changements de paradigme. Moi, je suis d'une génération où on tombait par hasard sur un livre d'occasion. Aujourd'hui, quand vous cherchez un livre sur Internet, on vous le propose systématiquement aussi d'occasion. Donc, vous n'avez pas forcément prémédité d'acheter d'occasion, mais le site Internet vous le propose. Vous avez aussi des sites comme Momox, Rakuten qui se sont développés et qui proposent une offre considérable. Et puis, il y a eu un deuxième changement de paradigme il y a quelques années. C'est ce que l'étude montre. C'est l'apparition de sites de vente en ligne entre consommateurs eux-mêmes, type Vinted, type Le Bon Coin, qui sont maintenant aussi utilisés pour la vente de livres d'occasion. Et puis c'est de plus en plus simple de revendre aussi ces livres. 4 Français sur 10 revendent leurs livres qui deviennent des livres d'occasion, des fois de la seconde main, mais qui peuvent être aussi de la troisième ou de la quatrième main. Un livre peut se revendre plusieurs fois.
Oui, ce marché du livre d'occasion représente, d'après votre étude, une manne financière aujourd'hui de 350 millions d'euros. C'est 30% de plus qu'il y a 5 ans. Quelles sont les conséquences sur les acteurs de la chaîne du livre ?
Alors c'est une fourchette basse, puisqu'il y a d'autres études qui montraient même un chiffre d'affaires plus important, mais en tout cas oui, c'est devenu significatif, et je crois que l'étude montre bien ça, il y a une prise de conscience de tout le monde sur l'importance du marché de l'occasion aujourd'hui. La première conséquence, il faut peut-être le rappeler, c'est que les auteurs et les éditeurs ne perçoivent aucune rémunération sur des ventes de livres d'occasion, et ça les acheteurs ou les lecteurs de livres d'occasion ne le savent pas toujours. Vous n'avez aucune rémunération prévue aujourd'hui sur une revente de livres d'occasion, à l'inverse du marché du livre neuf.
Alors l'instauration d'une contribution sur le marché du livre d'occasion vers la chaîne du neuf pour protéger les acteurs de l'édition face au développement de la revente, c'est ce que souhaite le chef de l'État. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous ?
Alors je pense qu'il faut, en tout cas ce que dit le chef de l'État et ce qu'a dit aussi la ministre de la Culture nous incite à réfléchir tous ensemble mais rapidement à ce qui pourrait être une solution effectivement pour venir compenser ces pertes de revenus, cette perte de valeur pour les auteurs et les éditeurs. On le sait, dans un secteur du livre où les marges sont déjà réduites. Peut-être qu'il est encore un peu tôt pour parler de rémunération, de contribution, de taxes. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, tous les acteurs de la chaîne du livre. Ça a été le cas, je remonte un peu dans le temps, mais il y a 20 ans, sur une autre question qui était celle du prêt du livre en bibliothèque, où on a tous ensemble, on s'est mis autour de la table, tous les acteurs de la chaîne du livre, les collectivités, l'État, et on a trouvé ensemble une solution innovante, efficace, qui fonctionne encore aujourd'hui et qui permet de compenser les pertes de revenus liées aux achats de livres par les bibliothèques, qui sont achetés qu'une fois, mais qui peuvent être prêtés à plusieurs reprises, mais qui n'a pas pénalisé le développement des lectures publiques, mais qui ne s'est pas opposé à une diffusion marchande du livre. Je pense qu'on peut trouver ensemble aujourd'hui une solution qui permettrait, qu'elle soit volontaire ou obligatoire, de continuer de favoriser le développement du marché du livre d'occasion, mais qui ne se fasse pas au détriment, comme c'est le cas aujourd'hui, de la rémunération, de la création, et donc des auteurs et des éditeurs.
Oui, mais concrètement, quels autres types de solutions on peut imaginer ?
Alors, la contribution, la taxe est une solution. Il faudra qu'on regarde si elle peut être mise en œuvre, si comment ça peut s'organiser aujourd'hui auprès de quels acteurs et comment ça peut être ensuite redistribué aux auteurs et aux éditeurs concernés. C'est toute la question d'une gestion collective dont la SOFIA est garante aujourd'hui. On a aussi des dispositifs qui sont un peu parallèles, comme le régime de retraite des auteurs, qui sont financés par du droit d'auteur aujourd'hui. On pourrait imaginer aussi que cette contribution volontaire ou obligatoire vienne alléger la pression sur les revenus des droits d'auteur pour financer le régime de retraite complémentaire et du coup retrouver des revenus complémentaires pour les auteurs et les éditeurs.
Geoffroy Pelletier, autre sujet en quelques secondes. Ce décret qui a été publié le 6 avril dernier au Journal officiel qui autorise la publicité pour les livres sur les chaînes de télévision hertzienne. L'éditeur Antoine Gallimard réclame son abrogation ce matin. Est-ce que vous partagez son inquiétude ? Selon lui, ça crée une distorsion entre les gros et petits éditeurs.
Alors c'est vrai que c'est un sujet ancien dans le monde de l'édition. Difficile de savoir si le fait d'avoir du livre à la télévision va privilégier ou favoriser la lecture. On a des études qui montrent qu'il y a une baisse de la lecture chez les jeunes. Malheureusement, les jeunes ne regardent plus beaucoup la télévision. Donc est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une mauvaise idée ? Certains sont catégoriquement contre, certains sont catégoriquement pour. On peut avoir deux craintes. La première, c'est que les efforts de promotion qui aujourd'hui sont faits sur la librairie, les festivals littéraires, la presse et la radio aillent plutôt vers la télévision, et puis que les budgets nécessaires sont tellement importants qu'on se concentre plutôt sur les best-sellers et qu'on oublie les ouvrages qui sont moins immédiatement rentables.
Merci beaucoup Geoffroy Pelletier. Je rappelle que vous êtes directeur de la SOFIA, Société française des intérêts des auteurs de l'écrit.
Merci.
Est-ce la fin de l'omerta sur les violences sexuelles à l'hôpital ? Depuis 48 heures, des milliers de soignantes témoignent sur les réseaux sociaux des violences sexuelles qu'elles ont subies dans le milieu hospitalier. Une libération de la parole qui fait suite aux révélations de Paris Match sur le médiatique urgentiste Patrick Peloux, accusé de harcèlement sexuel et moral par l'infectiologue Karine Lacombe. Alors face à ce nouveau MeToo, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, compte réunir prochainement associations, employeurs et professionnels, car le sexisme n'a pas sa place à l'hôpital, prévient-il. Pourtant, Frédéric Valletoux, ancien président de la Fédération hospitalière de France, la FHF, pendant plus de 10 ans, ne découvre pas cette situation. Anna Boctor, pédiatre à Nice et vice-présidente du syndicat Jeunes Médecins, a même tenté d'alerter la FHF en 2020.
J'ai remonté mon histoire personnelle, mais surtout l'histoire de beaucoup, beaucoup d'autres femmes médecins. À l'époque, ça avait fait du bruit dans le milieu, un petit peu, mais pas médiatiquement comme aujourd'hui. Les choses n'ont pas bougé dans un premier temps parce que nous n'étions pas vraiment crus. Lorsque j'ai eu un entretien à l'époque avec les représentants de la FHF, justement, dont Monsieur Valletoux était président à l'époque, on m'a tout simplement rétorqué que non, ce n'est pas vrai. Les femmes faisaient carrière comme les hommes et qu'elles ne souffraient pas de discrimination. et que d'ailleurs, s'il y avait besoin de parler, elle parlait sans aucun problème et qu'il n'y avait pas d'omerta, ce que je dénonçais déjà à l'époque. Si jusqu'à présent ça ne fonctionne pas, elle n'est pas écoutée, c'est que justement il y a cette omerta, que les pouvoirs sont entre les mains des hommes, justement. Quand on regarde les chiffres, c'est assez édifiant, 80% des professeurs universitaires sont des hommes. Donc c'est eux qui détiennent le pouvoir, il y a beaucoup d'entre-soi, beaucoup de on se protège les uns les autres, et donc ça entretient cette omerta. Les femmes aussi ont beaucoup de mal à parler, surtout publiquement, surtout à visage découvert ou de manière non anonyme, parce que justement, elles craignent pour leur carrière.
Anna Boctor, vice-présidente du syndicat Jeunes Médecins. La météo avec un samedi après-midi estival et un franc soleil sur la plupart des régions, comptez 15 à 26 degrés en moyenne sur le nord, 26 à 29 degrés sur le sud. C'est la fin de ce journal préparé ce midi avec Carline Desrosiers.